Ce sera ce vendredi le 20 juin, la journée mondiale des réfugiés, une journée internationale créée par les Nations Unies pour rendre hommage aux réfugiés du monde entier. Un moment phare pour mettre en lumière leurs droits, leurs besoins et leurs aspirations pour tous ceux qui ont été contraints de fuir leur pays d'origine. Alors dans les Hautes-Alpes, ce ne sera pas le 11 juin cette journée des réfugiés, ce sera ce mercredi avec un rendez-vous donné toute la journée au parc diocésain de Gap. Coralie Carvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du CADA de Gap, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui dépend de France Terre d'Asile. Donc dans France Terre d'Asile, il y a le CADA, le CPH.
Tout à fait.
Et Agir. Quelles sont les différences entre ces trois services ?
C'est pas simple de s'y retrouver. Le CADA, donc, comme vous l'avez dit, centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui est donc pour les personnes en demande d'asile, qui attendent d'obtenir une protection. Le CPH, centre provisoire d'hébergement, ce sont pour les personnes qui ont obtenu une protection internationale. Et enfin, Agir, c'est un nouveau dispositif d'accompagnement, ce n'est pas de l'hébergement, qui a été mis en place par l'État dans tous les départements. C'est un programme qui vise à accompagner les personnes qui ont un statut, donc une protection, dans leur intégration et leur insertion en France, en les aidant sur tous leurs droits pour pouvoir vivre en France du mieux possible.
Peut-être avant de commencer cette interview, quelques chiffres qui ont été publiés par l'INSEE il y a quelques semaines. 7 300 000 immigrés originaires de l'Europe ou non vivaient en France en 2023. Ça fait 10,7% de la population totale. Autre chiffre, ce sont les données d'Eurostat pour l'année 2022. La France a accueilli 6 migrants pour 1000 habitants, elle était en bas du classement européen avec la Slovaquie et la Bulgarie. Et pour comparaison, par exemple, à Malte, on accueille 66 migrants pour 1000 habitants, Luxembourg 48 pour 1000 ou encore Estonie 37 pour 1000. Pourquoi les exilés choisissent de passer la frontière française et en particulier la frontière de Montgenèvre malgré tous les risques qu'elle représente? Pourquoi ils quittent leur pays? Pourquoi ils viennent en France? Est-ce que c'est un choix?
Alors, je pense pas qu'on puisse dire que c'est un choix. Pour certaines personnes qui migrent dans le monde entier, ça peut représenter un choix. Pour les personnes qu'on accueille, nous, ici, en CADA, on peut absolument pas dire que c'est un choix. Il y a plein de motifs pour fuir son pays. La guerre, la faim, la famine, des problèmes, des violences, le réchauffement climatique. Il y a vraiment presque, je pourrais dire, autant de raisons que de personnes. Des histoires épouvantables, des violences intrafamiliales, des conflits armés. Plein de raisons. La manière dont les personnes arrivent jusqu'à chez nous est assez terrible pour justement pas pouvoir imaginer qu'elles aient eu le choix, puisqu'à tout moment de leur trajectoire d'exil, elles risquent leur vie, que ce soit dans le désert, en Libye, la traversée de la Méditerranée, jusqu'à, en effet, nos montagnes et le passage à Montgenèvre. Malheureusement, les conditions d'entrée en France sont quand même très dures. Les frontières sont très militarisées. Et donc, les personnes doivent prendre de plus en plus de risques pour traverser. Et il y a eu, il y a 5-6 ans, une des grosses arrivées dans la vallée de la Roya, plutôt dans les Alpes-Maritimes. La frontière a été très militarisée suite à ces nombreuses arrivées. Donc, en fait, le flux s'est reporté au-dessus. Oui. C'est pour ça que les personnes passent par Briançon aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut déjà faire toute la lumière entre tous les statuts, c'est-à-dire le statut à la fois de demandeur d'asile, le statut de réfugié, et il y a aussi le statut de protection subsidiaire? Quelles sont les différences?
Oui, c'est important de faire la différence parce qu'aujourd'hui, dans les discours, on entend beaucoup de termes, tout se mélange un petit peu. On parle notamment souvent des réfugiés et on met un peu tout dedans. Et donc, il y a vraiment des vrais... ce sont des notions juridiques. Donc, un demandeur ou une demandeuse d'asile, c'est une personne qui arrive en France et qui fait une demande d'asile pour divers motifs. Et en fonction, justement, de son motif de demande d'asile, elle va obtenir, dans le meilleur des cas, une protection. Et cette protection peut prendre deux formes, donc soit le statut de réfugié, soit la protection subsidiaire. Les deux statuts se diffèrent en fonction justement du critère de la demande. Dans tous les cas, pour les deux cas, il faut craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays. Le statut de réfugié, il est accordé sur des craintes très personnelles, en fait, qui sont énoncées dans la Convention de Genève. Donc, ça peut être des persécutions individuelles liées à la race, la nationalité, la religion, le genre, les opinions politiques, l'absence de protection dans son pays. Ça, c'est les motifs qu'on a besoin de remplir pour obtenir un statut de réfugié. La protection subsidiaire, c'est une autre protection qui ne dépend pas de la Convention de Genève et qui englobe plus les risques justement de menaces graves et individuelles lors d'un conflit, donc plutôt les conflits armés, mais c'est aussi les risques de torture ou de mauvais traitement ou de peine de mort. Donc voilà, après c'est des nuances qui sont juridiques et qui sont assez précises, mais en tout cas voilà, c'est les deux statuts qu'on peut avoir à l'issue d'une demande d'asile si elle est acceptée, et sinon on est malheureusement débouté de sa demande d'asile, et donc là on bascule dans une situation irrégulière.
Je vais vous poser deux questions par rapport à ce que vous venez de dire. Tout d'abord, ce que j'entends, c'est que quand on reste en France, quand on a un statut, c'est qu'on craint pour sa vie, premièrement. On ne vient pas en France pour toucher les allocations ?
Non, pas du tout. non, pas du tout. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui pourraient en bénéficier après. Puis l'ouverture de droit est tellement complexe qu'il y a même des allocations que certaines personnes ne touchent pas alors qu'elles y ont droit. Non, évidemment que non, les personnes ne viennent pas pour les allocations. Justement, encore une fois, quand on voit les risques qu'elles encourent pour venir jusque chez nous, beaucoup d'ailleurs ne savent même pas ce que c'est qu'une allocation. Et non, elles viennent parce qu'elles risquent, elles craignent pour leur vie. Et de toute façon, le statut qui leur est accordé par l'OFPRA, l'Office français de protection, est accordé en fonction de ces critères bien définis, notamment le fait de craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays.
Quand on est débouté, on peut faire appel de cette décision ?
Oui, alors c'est... En fait, on passe devant l'OFPRA, donc c'est à Paris, une administration française avec des officiers et des officières de protection qui, en fonction... Enfin, voilà, tout un protocole bien établi, rendent une décision. Cette décision est positive ou négative. Si elle est négative, la personne a la possibilité de faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, à Paris. Donc là, c'est une cour de justice avec des magistrats. La personne peut être défendue par un avocat ou une avocate. Et là, ce sera la décision définitive. Soit la cour suit la décision de l'OFPRA, soit la cour suit la décision de l'OFPRA, soit elle en prend une autre. En général, c'est pour en prendre une positive.
Vous voyez beaucoup de personnes qui sont déboutées.
Nous, sur notre CADA, ici à Gap, on a de la chance, on a plutôt un bon taux de protection. On est autour de 75-80% de taux de protection. Donc voilà, ça fait à peu près 20% de personnes déboutées. C'est toujours trop pour nous, puisque on les accompagne sur leur récit. Et nous, au CADA, on a quand même le sentiment que toutes les histoires sont légitimes. Et les personnes qui sont déboutées, c'est assez compliqué pour l'équipe qui les a accompagnées. C'est des situations après, évidemment, assez dramatiques.
Qu'est-ce qui se passe pour elles après, une fois qu'elles sont déboutées ? Vous disiez, elles tombent en situation irrégulière.
Ouais.
Et donc ?
Les personnes déboutées, alors nous, c'est très encadré. On est opérateur d'État, financé par l'État. On a un contrat avec les personnes. Quand elles sont déboutées, elles ont un mois pour quitter le CADA. Elles le savent dès qu'elles arrivent. Malheureusement, c'est facile de leur expliquer quand elles arrivent, c'est bien plus compliqué une fois qu'elles ont la décision. En tout cas, tout est bien clair entre les personnes et nous. Au bout d'un mois, suite à la décision, elles doivent quitter. Et là, c'est un grand parcours d'errance et d'invisibilité pour elles. Normalement, elles ont accès à l'hébergement d'urgence, puisque c'est de l'accueil inconditionnel. Dans la pratique, c'est souvent très saturé. Nous, ici, dans les Hautes-Alpes, c'est très difficile pour elles d'avoir accès au 115 et l'hébergement d'urgence. Et donc, elles arrivent à trouver de la solidarité dans la communauté, des connaissances. En général, elles quittent les Hautes-Alpes parce que c'est plus facile d'être invisible dans des grandes villes et du coup d'aller trouver des solutions alternatives qui n'en sont pas, qui sont souvent la rue, le squat, des marchands de sommeil qu'on a du coup, en tout cas, pas dans les Hautes-Alpes. Donc non, c'est assez dramatique pour ces personnes-là.
Une idée véhiculée quand on parle d'immigration, les immigrés, et je prends les termes, bien sûr je préfère parler d'exilés, mais en tout cas, les immigrés sont tous pauvres et sans qualification. C'est un sondage qui le disait, à 70% les personnes pensent ça, mais selon l'INSEE, parmi les personnes qui sont exilées, qui ont le droit de travailler en France, c'est le statut de réfugié, si je ne me trompe pas, qui donne ce droit, 71% travaillent, c'est autant que les non-immigrés, à 71%.
Alors, les deux statuts hein, permettent de donner le, enfin, autorisent le travail. Nous,
les
on,
deux statuts, réfugiés,
oui, réfugiés et protection subsidiaire. On peut travailler avec les deux. Et en effet, nous, on constate les chiffres que vous venez de donner. On a d'ailleurs deux conseillers en insertion professionnelle au CADA, parce que justement, ça nous apparaît très important. Ça fait partie, de toute façon, de l'intégration, le travail. Et nous avons des profils, effectivement, tout à fait diplômés. Après, c'est très complexe au niveau de la reconnaissance des diplômes, en fonction de la nationalité, etc. Mais nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas diplômés ou avec des diplômes qui ne pourront pas être reconnus, mais on a aussi des personnes qui sont diplômées. Et surtout, pour le coup, 100% des personnes ont envie de travailler. Ça ne fait aucun doute. C'est une des premières choses, après les papiers, qu'elles demandent quand elles arrivent. Elles ont absolument envie de travailler. C'est vraiment très important pour elle, évidemment pour l'aspect ressources, mais aussi dignité, reconnaissance, etc.
Il y avait une promesse du gouvernement, c'était de diminuer le temps d'instruction pour les demandeurs d'asile cette fois. Est-ce que ça a été respecté aujourd'hui, le temps d'instruction entre une demande et ensuite la réponse, ça met combien de temps?
Alors c'est très aléatoire. En tout cas, on a effectivement vu une accélération de la procédure, ça c'est sûr. C'est clair, il y a quelques années, des personnes pouvaient rester en moyenne presque 2-3 ans au CADA. Là, ça s'est vraiment accéléré, mais on reste quand même, on va dire, les personnes restent en moyenne. C'est difficile parce que c'est assez aléatoire, mais je dirais à peu près un an. On n'arrive pas vraiment à s'en réjouir, nous, ici, de l'accélération, parce que, mine de rien, les personnes qui traversent et qui arrivent en CADA sont des personnes, évidemment, polytraumatisées, qui ont besoin de se poser avant de pouvoir raconter leur histoire devant un officier ou une officière de protection qui va décider du reste de leur vie, hein, très clairement. Et donc, l'accélération peut avoir un côté quand même assez maltraitant pour les personnes parce que, du coup, tout va très vite et leur laisse pas forcément le temps de se préparer. Pour autant, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a des réponses aux décisions qui sont plus rapides qu'avant, alors qu'avant, les personnes pouvaient rester 8 mois entre le moment où elles sont passées à l'OFPRA et le moment de leur décision. C'est très anxiogène, évidemment.
Quelles sont les embûches et les obstacles pour une personne exilée, pour un demandeur d'asile, pour une personne réfugiée ou pour une personne sous protection subsidiaire? Est-ce que ce sont les mêmes embûches?
Non. Alors, la première embûche pour tout le monde, c'est la langue, quand même. La pratique du français, évidemment, quelqu'un de très francophone, ça va être plus facile. Pour tout le monde aussi, il y a évidemment toutes les différences culturelles. Appréhender notre système français, nos administrations, c'est hyper compliqué. Pour tout le monde aussi, les multitraumas, ça, c'est 100% des personnes qu'on accueille, quel que soit le pays, le statut. Ils ont tous vécu à minima des horreurs dans leur parcours d'exil. Ensuite, c'est évidemment différent pour un demandeur d'asile que pour des personnes bénéficiaires d'une protection internationale, donc réfugiés ou protection subsidiaire. Les demandeurs d'asile, ils sont dans l'attente. C'est très difficile pour eux de pouvoir se projeter tant qu'ils n'ont pas une décision.
Ils ne peuvent pas travailler, on le précise, c'est interdit en France.
Ils ne peuvent pas travailler, donc c'est difficile même pour eux au niveau de l'intégration. Et tous les enfants sont scolarisés, demandeurs d'asile ou pas, donc c'est quand même chouette pour les enfants. Et pour les familles aussi, ça leur met quand même un pied dans la société. Mais ils ont cette attente-là très incertaine qui rend difficile toute projection. Et en plus, ils ne peuvent pas travailler. Ce qu'on voit change vraiment, évidemment, la donne quand ils ont un statut, des papiers. Là, on est tout de suite sur vraiment des projections, des personnes qui vont arriver à plus s'installer, qui d'un coup vont en tout cas arriver à mieux apprendre le français. Pour autant, évidemment, une personne qui a un statut, il lui reste encore beaucoup d'embûches pour arriver à pleinement s'installer en France. Mais on va dire que grâce à des équipes en CPH et en CADA, on est là pour les lever. Mais évidemment que c'est compliqué.
Quand on parle d'immigration en politique, on a souvent l'impression d'être dans un clivage entre une droite jugée d'avoir des idées un peu trop fortes et une gauche que l'on taxe de vouloir accueillir toute la misère du monde. Quand on est à la tête d'un CADA, d'une association, est-ce qu'on se sent parfois oublié par les pouvoirs politiques, par les pouvoirs publics, notamment dans ce conflit d'idées, voire parfois d'idéologie?
Waouh, vaste question. mais question très intéressante, d'autant plus qu'on est presque une délégation de service public. Nous, en CADA, on est financé 100% par l'État, on est opérateur d'État, mes interlocuteurs sont l'État, je rends des comptes à l'État. En l'occurrence, nos liens avec les services de l'État ici sont bons, on travaille en parfaite collaboration. Donc c'est vrai que ça peut être assez déroutant d'entendre des propos de personnes politiques qui ne sont pas du tout en accord avec des directives finalement dont on ne fait pas la publicité souvent. Et tout est c'est très encadré dans un travail en CADA ou en CPH, c'est la même chose. On fait évidemment pas ce qu'on veut, on rend des comptes, c'est de l'argent public, on est très encadré. Et du coup, c'est sûr que ça peut faire une dissonance assez étrange sur notamment les associations dont on parle aussi souvent, qui aident, qui accompagnent, etc. N'oublions pas que nous, en tout cas, on est dans un cadre légal, bien connu des divers ministères et ministres de l'Intérieur, qu'on dépend du ministre de l'Intérieur. Donc ça peut en effet nous mettre dans des postures des fois quand même assez étranges. Par ailleurs, évidemment que ces discours, pour nous qui travaillons au contact régulièrement avec ces personnes-là, nous semblent assez éloignés de la réalité. Et nous paraissent évidemment des discours très politiques, qui sont à visée électoraliste, etc. Alors que nous, dans la pratique, on est au quotidien avec des individus. On a souvent l'impression dans les discours qu'on parle de foule, on parle au pluriel, on parle jamais au singulier, on parle jamais d'une personne. Et nous, on est au contact de ces personnes, de ces familles, de ces histoires. Et on a beaucoup de mal à mettre en lien, évidemment, avec les discours qu'on peut entendre. Ça n'a pas de rapport avec ce qu'on fait, nous, aujourd'hui.
Un discours qui peut être parfois un peu trop politisé. Vous le disiez, nous, on dépend quand même de l'État. On doit rendre des comptes à l'État. Ce qui veut dire aussi que les personnes que vous accompagnez doivent vous rendre des comptes. Il y a un contrat, une sorte de contrat qui est passé.
Alors, il y a un contrat. Toutes les personnes signent un contrat de séjour quand elles arrivent. Elles doivent, alors, nous rendre des comptes, ça serait bizarre de le dire comme ça. C'est des engagements réciproques qui sont fixés, en effet, sur un contrat de séjour qu'elles signent avec des règles, notamment même des règles relatives à l'hébergement, par exemple, d'autant plus pour des personnes qui vont être en cohabitation avec d'autres personnes dans l'appartement. Elles nous doivent pas de compte dans le sens, évidemment, pas...
Mais il y a un contrat moral qui est passé, en tout cas, il y a des règles.
Il y a aussi quand même pour les... Enfin, si, j'allais dire, elles ne nous doivent pas de compte financier, pardon, c'est pas vrai. Quand elles ont un statut, elles payent une participation à l'hébergement, justement aussi pour leur mettre un pied dans la réalité quand même de la vie en France. Et elles s'engagent à être actrices, acteurs de leur accompagnement aussi, évidemment. Et nous aussi, en fait, en tant qu'opérateur, on a des devoirs et des droits auprès de ces personnes-là. Tout est bien encadré par un contrat de ce genre.
Vous comprenez que dans certains esprits, l'immigration fasse peur?
Je peux comprendre bien sûr qu'elle fasse peur, notamment parce que justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on a l'impression, en tout cas médiatiquement, d'avoir un seul biais, une seule image, il y a un focus qui est fait avec des amalgames dans tous les sens, pour faire peur justement. Je peux comprendre d'un point de vue médiatique. Dans ma pratique, moi, ça fait 5 ans que je travaille en CADA, on accompagne plus de 150 personnes sur le CADA. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, nous, ce qui est véhiculé médiatiquement, on ne le constate pas du tout au quotidien. Et donc, on a évidemment envie de faire entendre une autre réalité. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il y a cette journée mondiale des réfugiés, pour donner à voir autre chose que
tout le monde peut venir.
Tout le monde peut venir, évidemment. Justement, c'est fait pour ça, c'est un événement public. Au vu du contexte ambiant politiquement sur le sujet, ça nous a paru très important d'être visible et de rendre visible notre public, de faire entendre aussi une toute autre image, une toute autre version. Venez rencontrer ces gens, discuter avec eux. Et évidemment qu'il n'y a que comme ça qu'on peut aussi faire lever les peurs, en fait.
Alors, je l'ai dit, c'est au Parc diocésain à Gap. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est toute la journée?
C'est toute la journée, de 10h à 16h. On a invité des associations partenaires qui pourront être là pour vous présenter aussi leur mission autour de la thématique des étrangers. Il y a un repas partagé où vous pouvez venir manger avec une participation libre. Il y a des jeux pour les enfants. Il y a Ludambule qui est là, le Café des Familles. C'est vraiment un événement convivial, festif, dans l'idée vraiment de se rencontrer, de venir discuter. Nous, nos résidents de CADA seront là, ceux du CPH aussi. Et encore une fois, c'est de justement ne pas se laisser invisibiliser et ne pas se laisser accoler des étiquettes trop fortes et de justement venir montrer autre chose.
Voilà, vous serez donc les bienvenus aujourd'hui de 10h à 16h au Parc diocésain de Gap pour cette journée mondiale des réfugiés. Alpin, d'ailleurs, sera présent de 10h à 12h pour une émission délocalisée avec plusieurs intervenants, notamment du CPH, en tout cas plusieurs intervenants de France Terre d'Asile et d'autres participants également. Également le Monseigneur Xavier Mal, l'évêque de Gap et d'Embrun, qui sera au micro. Alpin, merci beaucoup,
merci
Coralie, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpin pour cette journée mondiale des réfugiés.